Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 11 de la Sainte Sourate Layl. Nous vous en présentons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى
فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
Par la nuit, quand elle enveloppe, et par le jour, quand il éclaire, et par ce qu'il a créé mâle et femelle. Certes, oui, vos efforts sont divergents. Puis, quant à celui qui fait largesse et se comporte en piété et confirme la plus belle des choses, alors nous lui faciliterons la plus grande facilité. Et quant à celui qui est avare et cherche à se mettre au large et traite de mensonge la plus belle des choses, alors nous lui faciliterons la plus grande difficulté. Une fois perdu, cependant, ses richesses ne le mettront pas au large.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le jeudi 21 Ordi Behesht, 1402 du calendrier iranien, 11 mai 2023. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. L'armée syrienne est un axe important pour résister à Israël. Réunion quadripartite à Moscou. L'intégrité territoriale de la Syrie doit être respectée. Le ministre iranien de l'économie en visite à Jeddah, en Arabie saoudite, et un jeune Palestinien décédé des suites de ses blessures subies lors d'un raid des forces israéliennes. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Les ministres iraniens, russes, turcs et syriens des affaires étrangères ont publié mercredi une déclaration conjointe à l'issue de leur réunion quadripartite à Moscou, soulignant l'importance de respecter l'intégrité territoriale de la Syrie et de renforcer l'aide internationale aux pays déchirés par la guerre. La déclaration a également exprimé son soutien à la lutte contre toutes les formes du terrorisme, du séparatisme et de l'extrémisme en Syrie. En outre, il a rejeté toute ingérence dans les affaires intérieures de la Syrie et a souligné l'importance du respect de la souveraineté syrienne. Le ministre iranien des Finances et de l'Économie, Seyed Ehsan Khandouzi, qui s'est rendu à Jeddah en Arabie saoudite à la tête d'une délégation économique, est arrivé ce jeudi à l'aéroport de Jeddah après avoir été accueilli par les responsables du pays, les responsables de la Banque islamique du développement également. Il s'agit de la première visite d'un responsable du gouvernement de la République islamique d'Iran en Arabie saoudite après la conclusion d'un récent accord bilatéral signé à Pékin pour la reprise des relations entre les deux pays. L'ouverture d'une enquête judiciaire sur l'assassinat du martyr Soleimani a un message clair. La République islamique d'Iran et l'Irak sont déterminés à mettre fin à l'impunité dans cette affaire, a déclaré l'adjoint pour les affaires internationales du pouvoir judiciaire iranien, Qasem Gharibabadi. Le fait que le gouvernement américain fasse l'objet d'une plainte n'empêchera pas le procès des agents impliqués dans l'incident terroriste. le fait que nous n'avons pas accès aux criminels doit reporter l'application des lois? Absolument pas. Cela n'empêchera pas la justice et le jugement des criminels, a ajouté Qasem Qalibabadi. Le ministre iranien de la Défense a déclaré que Téhéran était prêt à aider au développement de l'infrastructure de la défense syrienne. Le ministre iranien de la Défense, le général de brigade Mohammad Reza Ashtiani, a tenu ses déclarations lors d'une rencontre mercredi à Téhéran avec le chef d'état-major général de l'armée syrienne, le général de division Abdelkarim Mahmoud Ibrahim. Le commentaire politique d'aujourd'hui a été consacré à ce sujet. Les brigades Al-Quds, qui sont la branche militaire du mouvement de résistance du djihad islamique, ont confirmé que 3 de ses commandants ont été tués dans une nouvelle attaque israélienne tôt ce jeudi à Gaza. Le régime sioniste a organisé de nouvelles frappes aériennes sur la bande de Gaza, assiégée pour la 3e journée consécutive. 3 autres commandants du djihad islamique ont trouvé la mort. Les frappes ont ciblé un immeuble de la ville de Hamad, près de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, tôt ce jeudi. Le chef de la force du lancement des roquettes du djihad islamique, identifié comme étant Ali Rali, et 2 autres commandants sont morts dans les frappes aériennes du régime sioniste sur Khan Younes, dans la partie sud de la bande côtière assiégée depuis 2007. 12 personnes ont également été blessées au cours de cette attaque. Un jeune Palestinien a succombé aux blessures qu'il a subies lors d'un raid israélien sur la Cisjordanie occupée. Selon des sources médicales palestiniennes, Aous Amin Hamamdeh a été blessé lors d'une attaque israélienne contre la ville de Rabatiya, au sud de Jenin en Cisjordanie. La ville reste le théâtre d'assauts systématiques des forces militaires israéliennes. Mercredi, les troupes israéliennes ont de nouveau attaqué la ville et ouvert le feu sur les habitants, y compris sur un véhicule, ce qui a fait 2 morts et un autre blessé. Au Pakistan, les autorités ont arrêté un proche collaborateur de l'ancien premier ministre pakistanais Imran Khan, arrêté cette semaine pour une affaire de corruption. Shah Mahmood Qureshi, qui a été ministre des Affaires étrangères sous le mandat d'Imran Khan, a été détenu au milieu des troubles politiques croissants au Pakistan. Dans un communiqué, le parti Tahrik et Insaf a annoncé que Qureshi avait été emmené dans un lieu tenu secret. Auparavant, 2 autres hauts dirigeants du parti, Assad Omar et Fawad Chourdi, avaient été arrêtés. Et enfin, au Mali, l'autorité indépendante de gestion des élections a affirmé que les préparatifs du référendum sur une nouvelle constitution du pays vont bon train au niveau de la structure. La convocation du collège électoral pour la tenue du scrutin du référendum le 18 juin 2023 était au centre d'un point de presse mardi animé par le président de l'autorité indépendante de gestion des élections, M. Mustapha Kissé. Mustapha Kissé a expliqué que les préparatifs du scrutin référendaire vont bon train au niveau de sa structure. Pour preuve, l'installation des coordinations de l'autorité à travers le pays a atteint un taux de 90%. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Restez à l'écoute de notre commentaire politique. lors d'une rencontre mercredi 10 mai à Téhéran avec le général Abdelkarim Mahmoud Ibrahim, chef d'état-major général de l'armée et des forces armées syriennes, le général de division Mohammad Borhedi, chef d'état-major des forces armées iraniennes, a rassuré que la République islamique d'Iran contribuait à renforcer l'armée syrienne et resterait aux côtés de la Syrie pour affronter le régime israélien. Le général Borhedi a décrit l'armée syrienne comme un important axe de résistance antisioniste dans la région, affirmant que nous renforcerons cet acte en coopération les uns avec les autres et nous nous opposerons ensemble aux exactions du régime sioniste, a-t-il souligné. Il a déclaré que sa rencontre avec son homologue syrien avait fourni une occasion de discuter d'une formation des forces syriennes à différents niveaux. Les deux responsables militaires ont également abordé le transfert de l'expérience militaire de la République islamique d'Iran aux forces armées syriennes, ainsi que la reconstruction de l'armée syrienne dans la période d'après-guerre. Le général Borhedi a salué les efforts antiterroristes de l'armée syrienne qui ont contribué à rétablir la sécurité à travers la Syrie. J'espère que la période de reconstruction de la Syrie commencera bientôt, a-t-il souhaité. La Syrie est aux prises avec un terrorisme endémique soutenu par l'étranger depuis 2011. Les groupes terroristes se sont rapidement emparés de vastes étendues du territoire syrien au milieu du soutien crucial que leur apportait le régime israélien. Israël cible régulièrement les défenses syriennes et fournit également un refuge aux terroristes sur les hauteurs du Golan qu'il a occupé en 1967. Cette situation a poussé Damas à demander l'aide à ses alliés, y compris l'Iran. La République islamique d'Iran a alors commencé à lui fournir une assistance consultative militaire vitale. Ces efforts conjoints ont aidé la Syrie à repousser les groupes terroristes et à restaurer sa souveraineté sur la plus grande partie de son territoire. Pour sa part, le général Abdelkarim Mahmoud Ibrahim, le chef d'état-major des forces armées syriennes, a déclaré que Téhéran et Damas pourraient coopérer l'un avec l'autre pour mettre fin à la domination des pays impérialistes. Nous bénéficions d'une coopération avec la République islamique d'Iran depuis longtemps et nous continuerons sur cette voie conformément à nos intérêts communs, a-t-il noté. La rencontre des deux généraux a eu lieu une semaine après la visite historique du président iranien Ebrahim Raisi en Syrie. Lors de son entretien avec le président syrien Bachar el-Assad, le président de la République islamique d'Iran a souligné que Téhéran contribuerait à la reconstruction et au développement de la Syrie d'après-guerre. Le président syrien a salué pour sa part le soutien de l'Iran à la Syrie tout au long du conflit dans son pays. Il a appelé la République islamique d'Iran à jouer un rôle important dans l'instauration d'une paix durable en Syrie et dans sa reconstruction.
Bonjour à tous, bienvenue ici dans les studios de Presse TV, dans la capitale iranienne, Téhéran. Le sujet du jour est l'entente la Palestine, les dernières attaques par l'entité sioniste sur Gaza, les différents chefs de la résistance palestinienne qui sont morts, mais pas seulement, leurs familles également. C'est le sujet du jour. Pour ce faire, nous avons préparé donc un reportage, comme le veut le débat. Et par la suite, nous ferons venir nos deux invités, qui sont aujourd'hui Mme Rada Obola et M. Ahmad Rami, dirigeant de Radio Islam. Tout de suite donc, je vous propose notre reportage.
Nouvelles frappes israéliennes sur la bande de Gaza. L'Iran condamne fermement. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a fermement condamné l'attaque terroriste du régime sioniste dans différentes zones de la bande de Gaza ce mardi, qui a fait 12 morts et 20 blessés, parmi lesquels 3 hauts commandants du djihad islamique, mais aussi des femmes et des enfants. Le silence et l'inaction de la communauté internationale et des pays occidentaux face à l'escalade des actions inhumaines perpétrées par les sionistes contre la nation palestinienne ces derniers mois sont les raisons les plus importantes des atrocités commises par le régime sioniste. Pour le diplomate iranien, cette inaction complice sera inscrite dans l'histoire comme une tache noire et honteuse pour les prétendus défenseurs des droits de l'homme. Nasser Kanani a considéré les nouvelles frappes du régime sioniste menées à la veille de la journée de la Nakba comme un signe de la faiblesse du régime agresseur face à la résistance héroïque des jeunes Palestiniens contre les actions agressives des sionistes et un geste visant à détourner l'opinion publique de la situation interne très instable du régime sioniste. Le porte-parole de la diplomatie iranienne a souligné la nécessité d'une action immédiate, efficace, dissuasive et coordonnée des pays musulmans pour arrêter la machine meurtrière et criminelle du régime sioniste. L'agression de l'occupation sioniste sur la bande de Gaza, mardi matin, a fait jusqu'à présent 12 morts en martyrs et 20 blessés, parmi lesquels 3 commandants du djihad islamique, mais aussi des femmes et enfants.
Nous revoilà donc sur les plateaux. Donc tout de suite, nos deux invités, tous deux par voie audiovisuelle. Alors notre première invitée, Mme Rada Obola. Bonjour Mme Rada Obola, docteur. Merci de participer avec nous à ce débat.
Merci à vous, encore une fois, pour m'avoir invité à votre plateau. Et bien entendu, je salue les téléspectateurs et téléspectatrices de Presse TV ainsi que votre invité.
Merci. Notre deuxième invité étant M. Ahmad Rami, donc également président de Radio Islam. Bonjour M. Rami, ravi de vous avoir avec nous ici.
Merci, bonjour et bonjour à tous les auditeurs aussi.
Alors, Mme Rada Obola, on va commencer par vous, puisqu'il y a eu une réaction de la part du Hezbollah libanais. Alors, on a vu ces dernières 24 heures extrêmement intenses à Gaza. Des chefs de la résistance palestinienne ont été visés, mais pas seulement, puisque ce sont au sein de leur maison propre qui ont été attaqués. Donc, familles, femmes et enfants ont également perdu la vie, ou en tout cas ont été blessés. C'est la situation actuelle. Alors, il y a deux manières de traiter l'information. Le fait de voir la situation palestinienne empirer de jour en jour, surtout ces 6 derniers mois, on voit attaques sur attaque, et puis l'autre manière de voir ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Palestine, occupée en Palestine, c'est la non-réaction du système des institutions internationales, c'est la non-réaction des chefs d'État du monde entier, voire le silence total des médias. Alors venons d'abord au premier point qui est ce qui s'est passé donc à Gaza. Ces attaques qui sont en fait contre, hein, vous voulez me le dire vous-même, vous êtes expert et enseignant-chercheur à l'université islamique du Liban, sur le fait qu'il y a matière à attaquer d'un point de vue juridique, à également attaquer d'un point de vue moral. Ce qui s'est passé, ces attaques ne se sont faites sans aucun cadre, on va dire, guerrier, je veux dire, ça ne respecte aucune loi que d'attaquer les attaquants au sein de chez eux de nuit sans summum.
Oui, alors par rapport au droit international public, l'entité sioniste n'a que faire du droit international public, puisqu'elle est même pas, elle fait même pas, elle a même pas signé de toute façon la charte ou le statut de la CPI, c'est-à-dire la Cour internationale ou la Cour internationale de justice. Ça, c'est rapidement. Mais pour revenir à plusieurs questions que vous avez posées en les énumérant sous des points. D'abord, alors, concernant ce qui s'est passé, l'agression, dans le cadre de la juridiction sur Nice, c'est-à-dire dans le cadre de la justice israélienne, il faut se rappeler que la Cour ou bien la justice israélienne, il y a, je crois, quelques années, avait donné raison à l'entité sioniste, c'est-à-dire aux responsables politiques et militaires, d'adopter la politique d'assassinat comme faisant partie du droit à l'entité sioniste de se défendre. Donc déjà, il y a une couverture légitime interne de la part de la justice concernant la politique d'assassinat, qui, il faut le rappeler, depuis la création de cette entité jusqu'à aujourd'hui, la Palestine occupée a subi plus de 3 000 assassinats, voire la résistance palestinienne, que ce soit à l'intérieur des frontières de la Palestine occupée ou à l'extérieur. Donc, concernant le cadre de l'assassinat. Deuxièmement, concernant ce qui s'est passé, bon, ces 40 avions et drones israéliens qui ont effectivement tué plusieurs, trois au cadre du djihad islamique. Certes, c'est une forme de violation sécuritaire du djihad islamique, mais j'ai suivi justement les observateurs, que ce soit dans la région arabo-islamique ou au niveau de l'entité sioniste. Il est clair que Netanyahu s'était préparé à ce qu'il y ait une réaction de la part du djihad islamique et de la part du Hamas, puisqu'il sait désormais, il en est tout à fait conscient, qu'il existe une seule chambre commune désormais. La résistance palestinienne est unifiée et donc quelle que soit l'agression sur n'importe qui des factions, contre les factions palestiniennes, il y aura une riposte. Or, la riposte n'est pas venue.
J'ai une question. Je me permets de vous interrompre sur ce point-là parce qu'il y a quand même un point. Il y a quand même plus de 5 000 sionistes qui ont été bougés de leur cité.
Oui, hein. Est-ce que
l'entité sioniste n'en a rien à faire de ses propres juifs en concordance avec l'entité sioniste, puisqu'il y a quand même des juifs qui ne sont pas d'accord et qui vivent à Israël, mais ils mettent en danger leur propre peuple ici dans la situation. Ils savent qu'il va y avoir une réaction, ils savent qu'il y a danger, qu'il y a matière à danger à s'en prendre directement comme ça à des territoires occupés ou à des territoires comme Gaza qui n'est pas un territoire occupé, qui appartient aux Palestiniens. Ce sont des choses qui mettent en danger le peuple.
Ça n'a rien à voir. Je vais vous donner une information. Un des membres du djihad islamique était en train justement de divulguer des informations sur la chaîne sanitaire Al-Mayadine. Il était en train de dire clairement qu'en fait Netanyahu n'avait pas prévenu de cette opération, ni à l'établissement militaire, ni aux responsables militaires. Ils n'étaient pas au courant. Donc, Netanyahu était en train de faire ce qu'il était. C'est un message. Au contraire, il avait préparé tout le terrain. Il avait ouvert tous les refuges, tout était préparé pour en fait enflammer l'intérieur, voire l'extérieur de la Palestine occupée, c'est-à-dire de l'entité sioniste. Netanyahu avait besoin de se montrer en tant que héros afin de légitimer sa présence, non seulement à l'égard de l'opinion publique israélienne interne, mais aussi une manière d'entraîner, si vous voulez, les États-Unis derrière lui. donc derrière une déflagration justement de la situation ou bien une escalade.
Alors on rappelle, excusez-moi Madame Kadovola, on rappelle à nos auditeurs que sur ce même plateau, on avait indiqué il y a quelques semaines que l'antisioniste a besoin d'une réaction de la résistance pour faire oublier ce qui se passe à l'intérieur des territoires sionistes, c'est-à-dire les problèmes politico-juridiques à l'heure actuelle que subit l'entité sioniste. Alors voilà, allez-y, continuez, c'est juste pour rappeler à nos auditeurs ce qu'on avait déjà dit donc, il y a quelques semaines.
Oui, d'accord. Et donc ce qui prouve qu'il y a une part de vrai dans ces propos, c'est que là, je rappelle ce qu'a dit le secrétaire général du Hezbollah, on a attendu 24 heures avant qu'il y ait une riposte, parce que là, je vois sur mon laptop qu'il y a à peu près 26 missiles tirés de la bande de Gaza vers les colonies environnantes. Donc la réponse est venue après 24 heures. C'est un silence stratégique. Et il en a parlé justement, Saïd Hassan Nasrallah, dans plusieurs de ses discours, que nous adoptons souvent ce qu'on appelle le silence stratégique. C'est-à-dire qu'il s'agit de bouleverser les cartes justement de l'entité sioniste, en particulier Netanyahu, et tout l'establishment politique qui est autour de lui. Et provoquer justement une nouvelle forme d'équation et imposer une nouvelle forme de dissuasion. Donc, grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est que même au niveau du Hezbollah, c'est-à-dire au niveau de l'axe de la résistance, Cheikh Naïm Kassen et également il y a eu un communiqué du Hezbollah qui ont déclaré qu'ils soutenaient toute décision, quelle que soit décision prise par justement les factions palestiniennes ou par la Chambre commune de la résistance palestinienne. Donc, la question israélienne contre Gaza n'a pas, si vous voulez, réussi là où Netanyahu souhaitait qu'elle réussisse.
Merci, Mme Kadovola. Alors, on revient vers notre deuxième invité, M. Ahmad Rami, donc je rappelle, président de Radio Islam. M. Rami, on a vu, hein, et ce n'est pas la première fois, puisque les différentes attaques en Palestine sont régulières et sont nombreuses, un silence total cette semaine en Europe, en Occident, mais également dans les autres institutions internationales qui puissent exister, par exemple les droits de l'homme. Il n'y a aucun écho de ces attaques, aucun écho sur la protection des civils, sur la protection des femmes et des enfants qui vivent en Palestine.
Oui, puisque moi-même je vis en Suède, je remarque qu'il n'y a pas eu de... bien sûr, de réaction. Pourquoi? Parce que les réactions, en réalité, s'expriment surtout et aussi se forment dans les médias et s'expriment dans les médias et dans l'opinion publique. Parce que les gens, le peuple, n'ont pas de contact direct avec la réalité, avec ce qui se passe. Donc, l'opinion publique et les politiciens tous voient ce qui se passe dans le monde à travers des lunettes, des médias sionistes qui occupent tous les pays en Occident, ici, aussi en Est, dans l'Est. Et ils occupent les médias. Les journaux, les radios, la télévision, les maisons d'édition, tous les médias qui forment l'opinion sont dominés par et occupés. Parce que s'ils occupent la Palestine militairement, ils occupent l'opinion publique dans chaque pays et internationalement, politiquement, médiatiquement, intellectuellement, et aussi idéologiquement. Parce que qu'est-ce que c'est l'idéologie? C'est en réalité l'image. Ce sont des images, une image formée dans par les médias, par les moyens de s'exprimer, qui sont les journaux, la presse et aussi les maisons d'édition. Mais je vois par exemple, même aux États-Unis, il n'y a pas un Américain qui a des contacts directs avec le, avec Biden. Biden, le président des États-Unis, ils ont l'opinion publique, ils ont de Biden, le président, l'image formée par les médias sionistes, les médias qui occupent les sionistes qui occupent les médias aux États-Unis. Donc la même chose maintenant aussi, en réalité, s'ils occupent l'Occident, ils adaptent toujours leur occupation à la situation locale. Les sionistes adaptent leur méthode à la situation locale dans chaque pays et dans chaque région et dans chaque idéologie. Et c'est pour cela que, par exemple, s'ils occupent les pays occidentaux en infiltrant ce qu'on appelle la démocratie, il n'y a pas de démocratie en réalité, mais ils appellent ça la démocratie, alors que ils occupent la Palestine militairement parce que ils n'ont pas pu occuper les esprits, ils n'ont pas pu occuper les médias palestiniens, ils n'ont pas pu occuper en Palestine les cerveaux.
Merci, monsieur.
Les cerveaux résistent encore en Palestine.
Merci, monsieur Ahmad Rami. Madame Rada Oboula, revenons à la réaction donc de la résistance. Très vite après l'attaque, différents pays pro-palestiniens donc ont réagi, dont donc l'Iran. Monsieur Kadani, souvent, le porte-parole donc du ministère des Affaires étrangères, a souvent indiqué qu'il y avait deux poids, deux mesures en matière de relations internationales sur les différents pays, c'est-à-dire que ce soit le Moyen-Orient ou l'Europe. Il l'a dénoncé également, il y a une dénonciation qui se fait de plus en plus forte sur le fait que la question palestinienne n'est pas du tout questionnée. Vous-même, en tant qu'enseignant-chercheur, qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ces réactions-là et sur le fait que la Palestine, depuis plusieurs mois maintenant, les choses s'enveniment de plus en plus. La résistance essaye de rester calme. Comme vous l'avez dit, ils agissent d'une manière plus posée afin d'avoir une meilleure réaction et de laisser voir ce qui se passe en Israël avec ces réformes que Netanyahou souhaite passer. Est-ce que vous pensez que la situation en Israël peut encore durer longtemps? Est-ce que la résistance se doit être encore plus patiente?
Non, de toute façon, concernant les réactions au niveau de l'axe de la résistance, bon, qui est, c'est connu, bon, il y a toujours une condamnation, c'est bien de condamner, mais toujours il faut joindre l'acte à la parole. Ça sert avec l'entité sioniste depuis sa création. Il est inefficace de se contenter de paroles de condamnation. Bon, ce qui est clair, c'est qu'après 2006, c'est-à-dire après la deuxième guerre israélienne contre le Liban en 2006, la victoire que Satan a qualifiée de divine a permis aux populations au peuple plus exactement du monde arabo-musulman d'avoir plus confiance en eux-mêmes, de croire en la possibilité de pouvoir vaincre cette entité sioniste qui, il faut toujours le rappeler, est soutenue matériellement, financièrement, militairement, pas seulement par les États-Unis, mais aussi au niveau diplomatique, par ce qu'on appelle l'Occident. Donc, récemment, la Jordanie a condamné, c'est-à-dire l'agression d'il y a deux jours, il y a la Jordanie qui a condamné, il y a l'Algérie qui a également condamné, la Syrie. Bon, on sait que la Jordanie et l'Algérie ne font pas partie de l'axe de la résistance, proprement dit. Bon, la Syrie, c'est normal qu'elle condamne. L'Iran, c'est normal qu'elle condamne. Mais toujours, l'axe de la résistance a compris qu'il fallait toujours accompagner les paroles de condamnation au niveau diplomatique par des actes sur le terrain, de l'acte de la résistance. Et là, je reviens à ce qui se passe sur le terrain, parce que là, les événements sont en train de se dérouler de façon très, très vite. Il y a à peine quelques heures, le Hamas a déclaré que le retard dans la réponse fait partie de la réponse. Alors, laisser l'ennemi attendre et rester. Donc, laisser l'ennemi attendre à ce qu'il y ait une forme de riposte fait partie de la guerre psychologique, premièrement. Deuxièmement, le Hamas a déclaré qu'il nous ferons partie de la réponse, et cette réponse sera forte et douloureuse. Là aussi, je veux rappeler que il n'y avait pas les 26 missiles qui ont été lancés il y a à peine une demi-heure vers les colonies environnantes de la bande de Gaza. Auparavant, il y a eu l'aviation d'occupation israélienne a lancé une série de raids sur des zones distinctes de la bande de Gaza. Donc, il est clair que Netanyahou est en train de chercher à tout prix une riposte, et il l'a cherché, il l'a trouvé de toute façon. Mais jusqu'à maintenant, la riposte de Hamas, la riposte des factions de la résistance palestinienne est plus ou moins modérée, en attendant de ce qui va se passer dans les quelques heures à venir. Donc, au niveau du droit international public, au niveau de l'ONU, qu'est-ce qu'on a à faire là-dedans? Moi, en tant que Libanais, j'ai une expérience avec l'occupation israélienne, en ce sens qu'on a beau aller condamner les violations israéliennes contre la souveraineté du Liban, il y a toujours le veto américain qui empêche cette condamnation. Donc, c'est sur le terrain qu'on peut réussir à briser, si vous voulez, l'entité sioniste. Et c'est ce qui s'est passé en 2006. C'est ce qui s'est passé dans plusieurs batailles. Je cite la bataille d'Al-Quds il y a 2 ans au mois de Ramadan.
Merci, Mme Kadaoubola, pour ces précisions et puis pour cette prise de position également. Merci, M. Ahmad Rami, pour vos propos, votre participation à ce débat. Je répète également mon remerciement à Mme Kadaoubola, donc enseignant-chercheur à Beyrouth. Merci pour votre participation. Chers auditeurs, si vous voulez suivre nos débats, n'hésitez pas à regarder notre site Internet ainsi que nos réseaux sociaux, voir les précédents débats et les futurs débats. Moi, je vous dis au revoir à partir des studios de Presse TV dans la capitale iranienne, Téhéran. Au revoir.
La voix de la lumière.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Louange au prophète de la paix et de la clémence, le vénéré Mohammed. Que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, nous vous présentons la lecture, la traduction et l'exégèse des versets 70 à 78 du chapitre 43 du Noble Coran, la Sainte Sourate Al-Zukhruf, l'ornement. Restez avec nous jusqu'à la fin de la Voix de la Lumière d'aujourd'hui. Dans notre précédent programme, nous avons lu ensemble des versets de la sourate 43 qui nous ont appris que le vénéré Jésus béni soit-il réalisa des miracles grâce à la volonté du Seigneur et appela les gens à adorer Dieu en leur offrant des arguments sages pour dissiper les sujets de leur désaccord. Il se présenta comme un serviteur de Dieu et rejeta ainsi toutes les superstitions qui feraient de lui une divinité. Il dit clairement qu'il était une créature du Seigneur, tout comme les autres humains. Le Coran souligne que la résurrection arrivera d'une manière soudaine et imprévisible. Ce jour-là, les mécréants et les pécheurs deviendront les uns les ennemis des autres, à l'exception des croyants et des pieux. Au jour de la résurrection, Dieu le Très-Haut s'adressera à ses serviteurs et leur dira de ne craindre rien et de ne point s'attrister, car ils seront protégés par leur Seigneur. En effet, le noble Coran nous apprend que le cœur qui accueille l'amour et la confiance envers Dieu le Très-Haut ne connaîtra pas dans l'autre monde les peurs et les chagrins qui infligeront les mécréants et les pécheurs. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, écoutons d'abord les versets 70 à 73 de la Sainte Sourate Al-Zukhruf, l'ornement. Puis nous vous en donnerons la traduction.
ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون
Entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. On fera circuler parmi eux les plats d'or et des coupes, et il y aura là pour eux tout ce que les âmes désirent et ce qui réjouit les yeux. Et vous y demeurerez éternellement. Tel est le paradis qu'on vous fait hériter pour ce que vous faisiez. Il y aura là pour vous beaucoup de fruits dont vous mangerez. Il n'y a dans le paradis que des joies et les délices pour les croyants qui ont mérité la récompense divine. Les hommes et les femmes qui ont mené dans ce bas monde une vie pleine de foi et de vertu retrouveront dans le paradis leur épouse ou leur époux. Ils y partageront ainsi les plaisirs du paradis. Les pieux qui se sont abstenus pendant leur vie terrestre des désirs matériels éphémères seront récompensés par le Seigneur de tout ce que l'âme désirerait. Le noble Coran souligne que les croyants et ceux qui s'étaient soumis à la volonté de Dieu resteront éternellement au paradis. Ces versets nous apprennent que les épouses et les époux pieux et croyants se rejoindront dans le paradis céleste. Ceux qui se sont abstenus des péchés et des désirs éphémères de ce bas monde matériel seront récompensés dans le paradis des plaisirs incomparables à ceux qu'ils avaient connus sur la terre. Voici maintenant les versets 74 à 76 de la Sainte Sourate Al-Zukhruf, l'ornement.
Innal mujrimina fi 'adhabi jahannam khalidun la yufattaru 'anhum wa hum fihi mublisun wa ma zalamnahum walakin kanu hum adh-dhalimin.
Quant aux criminels, ils demeureront dans le châtiment de l'enfer qui ne sera jamais interrompu pour eux et où ils seront en désespoir. Nous ne leur avons fait aucun tort, mais c'était eux, les injustes. Si les pieux et les croyants seront logés dans le paradis, les mécréants et les pécheurs seront condamnés dans l'autre monde à demeurer éternellement dans l'enfer. Ils y resteront dans le regret et le désespoir, et leur châtiment ne sera pas interrompu. Cependant, nous devons souligner ici que selon d'autres versets coraniques et que selon certains hadiths, tous les criminels ne resteront pas éternellement dans l'enfer. Ceux qui y resteront toujours sont ceux que s'ils avaient vécu pendant 1000 ans sur la terre, ils auraient insisté toujours dans leur perdition et leur désobéissance au Seigneur. Autrement dit, les habitants éternels de l'enfer sont les gens qui n'ont aucunement le mérite de recevoir la grâce divine. Ces versets nous apprennent que dans le cadre de l'éducation coranique, les avertissements et les encouragements sont souvent utilisés de manière parallèle, afin que les individus ne soient atteints ni par le désespoir, ni par l'orgueil. Les bonnes œuvres qui font entrer les pieux au paradis céleste et les péchés qui font entrer les criminels dans l'enfer sont tous les uns comme les autres, les actions de l'homme lui-même. Dieu le Très-Haut n'inflige aucune injustice à ses créatures, mais il châtie les criminels et les oppresseurs. Écoutons enfin les versets 77 et 78 de la sourate 43 du Noble Coran.
ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون.
Et ils crieront, ô Malik, gardien de l'enfer, que ton Seigneur nous achève. Il dira, en vérité, vous êtes pour y demeurer éternellement. Certes, nous vous avions apporté la vérité, mais la plupart d'entre vous détestaient la vérité. Les condamnés demanderont aux gardiens de l'enfer de dire à Dieu de les tuer, mais celui-ci leur répondra qu'ils resteront éternellement dans l'enfer, parce qu'ils s'opposaient à la vérité et la détester. La condamnation à demeurer éternellement dans l'enfer est le résultat de leurs mauvaises actions et de leur désobéissance pendant leur existence sur la terre. Ces versets nous apprennent que pendant notre vie, nous devons veiller sur nos actes et nos comportements afin que nous ne les regrettions pas au jour du jugement dernier. Le verdict du Seigneur ne tombera dans l'au-delà qu'après les avertissements dans ce bas monde. La soumission à la vérité est la clé du salut de l'homme, tant dans ce monde que dans l'au-delà. Chers auditeurs, ici s'achève la voie de la lumière d'aujourd'hui. La prochaine fois, nous vous présenterons la lecture et l'exégèse d'autres versets du chapitre 43 du Noble Coran, la Sainte Sourate Al-Zukhruf, l'ornement. D'ici là, nous vous confions toutes et tous à la garde de Dieu. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur onde courte, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.